Comment faut-il? Que je vous le dise.
Comment faut-il que je vous le dise?
Que je vous le dise.
Vous êtes bien sur les ondes de Radio Canu au 102.2 pour « Mais comment faut-il que je vous le dise ?» une émission qui souhaite donner aux imaginaires le don d'ubiquité. Une émission qui souhaite donner aux imaginaires le don d'ubiquité et la force d'inventer, de créer la vie, l'amour, le hasard et si aussi, et tout ce qui peut nous rendre heureux et heureuses. Aujourd'hui, nous sommes retrouvés dans les studios de Radio Canu avec Adrien.
Bonjour.
Pour un nouvel épisode poétique au format physique, à l'odeur de l'avenir, au goût du risque, au toucher velours, et c'est le bruit qui court. C'est ainsi qu'on commence.
Je voyais tout son corps qui battait dans ses yeux. Et son cœur dans ma main semblait pousser mes doigts. Nos deux vitalités associaient leurs efforts au souffle dénudé de nos orgasmes sourds. Comme un bain de chaleur où l'acier pouvait fondre. Et le monde cessait sa course interminable. De l'oubli, nous n'étions plus nous-mêmes. Et nous n'étions plus rien, la peau contre la peau. Rien que l'incarnation de la béatitude. Une idée si profonde et si vague qu'elle en est intouchable. Or, en ce corps à corps.
J'ai grandi avec un petit frère qui avait une figurine de Robocop. Il nous arrivait souvent de nous asseoir et de toucher à tour de rôle le bouton sur sa poitrine qui activait une voix électronique. Le Robocop prononçait trois phrases.
La drogue, c'est mal. Lâche ça.
Et
à toi de jouer, canaille.
L'ennemi de ce jouet Robocop, c'était les criminels, mais nous étions également concernés. C'était nous, le toit. Les destinataires, les cibles potentielles. C'était nous, les canailles, à qui c'était le tour de jouer. Nous, qui possédions ce jouet, et pas l'entreprise Omni Consumer Products, qui avait utilisé le corps à moitié mort de l'agent Murphy pour créer un flic cyborg, dont le rôle serait de nettoyer les rues et d'accompagner la revitalisation commerciale et le développement d'un Détroit dystopique, sans foi ni loi. Un flic miniature dans la boîte à jouer. Ce petit Robocop semblait dire « Tout le monde est un ennemi potentiel. Ne consommez pas de drogue, les enfants. Ne prenez pas de cette saloperie. » Je n'ai jamais pris de drogue dans ma jeunesse. Faut-il remercier le petit Robocop dans ma tête? J'entends toujours résonner le mantra qui émanait de sa poitrine. « La drogue, c'est dangereux. » Ce Robocop-là était celui du début des années 1990 et non celui de 1987. Le premier Robocop était né un an avant moi. Il était en guerre avec ses concepteurs. Évidemment, il voulait aussi s'en prendre aux criminels. Sans criminels, les flics n'existent pas. Mais les criminels étaient une simple diversion. En dernière analyse, Ces derniers n'étaient que les laquais d'hommes d'affaires en costard. Dans sa quête de ses origines, Robocop découvre une vaste conspiration de technocrates capitalistes. Robocop, avec sa croyance naïve et chimérique en une police protégeant les citoyens, symbolise une certaine idée de la police que l'opinion publique tient pour acquise. Robocop a été programmé pour obéir à trois directives. Servir le public, protéger l'innocent et faire respecter la loi. Une quatrième directive, secrète, disait « Ne déconne pas avec tes concepteurs ». Robocop était un flic docile, mais au fur et à mesure de son humanisation, il découvre que le travail des policiers s'est modifié au point de perdre toute légitimité morale. Des intérêts privés ont pris le contrôle de la police. Les sbires de la grande compagnie OCP évoquent à plusieurs reprises le futur du maintien de l'ordre. Des secteurs publics qui n'étaient pas profitables auparavant, comme la police et les prisons, sont en réalité des marchés qui attendent d'être exploités. Quel est le futur du maintien de l'ordre ? Quel est le futur du maintien de l'ordre ? Une expérience technologique de police cyborg, moitié homme, moitié machine, peau et circuit, un assemblage recombinant, des technologies de soft police et de bass police. On l'a équipé de pièces d'artillerie, un pistolet 9 mm et un fusil d'assaut Cobra, mais aussi d'une antenne qui lui permet de télécharger des renseignements à partir de la base de données de la police pour les comparer avec les informations qu'il a récoltées. Quel est le futur du maintien de l'ordre ? C'est Robocop. En lui, la violence de la coercition policière et carcérale converge avec la contre-insurrection soft. Police militarisée, d'une part, contrôle cybernétique, de l'autre. Le vieux Détroit où opère Robocop, dévasté par la politique économique de Reagan, devient le laboratoire où la grande compagnie teste ses nouvelles technologies de guerre. De nos jours, l'extraction de données et l'analyse prédictive travaillent de concert avec l'exercice de la force brute. Ce que je voulais faire, c'était regarder sous le capot de ce qu'on appelle le travail policier. Pour découvrir ce qui se cache au-delà du spectacle des violences policières, des images de Ferguson où l'on voit la police avec tout son attirail anti-émeute lancer des grenades lacrymogènes depuis des véhicules blindés. Je voulais comprendre comment la police s'infiltre dans notre vie quotidienne, comment la technologie nous contrôle à notre insu. Je voulais accéder à ce qu'il y a d'intrusif et imperceptible dans le double fond des projections dystopiques sur l'avenir de la police. Car le futur du maintien de l'ordre, c'est maintenant. Ne le sentons pas tout autour de nous ? Nos sens ne nous indiquent-ils pas que quelque chose ne va pas ? Quand je tiens mon iPhone trop longtemps dans ma main, je sens presque un cancer se développer à l'intérieur. Les caméras de surveillance font-elles muter notre psyché ? Entendez-vous la caméra murmurer « Ton corps n'est pas ton corps. Ton corps est un point sur un quadrillage. » Une chose à surveiller, à pacifier, à capturer, à signaler, à cibler à des fins commerciales. Robocop n'est pas le flic cybernétique par excellence, même s'il représente cette transition vers une technopolis. Le flic cybernétique n'a pas de visage. Aujourd'hui, il s'appelle CompStat. Il habite dans des bases de données connectées entre elles. Il s'étend sur la carte sous la forme d'une radiation électromagnétique, d'une atmosphère, de signaux. On l'inhale, il se déplace à travers moi. Il m'endort avant que je ne sache que je suis fatigué. Il me capture à un instant pour lequel je ne me suis jamais préparé. Quand je lève les yeux sur les images des caméras de surveillance à la pharmacie, je remarque que je suis décoiffé. Je m'arrange les cheveux comme si l'écran était un miroir et que je n'étais pas exposé. Je me désintègre et on m'envoie par bribes d'informations à un serveur. Mais où suis-je ? Démembré, dispersé de par le monde, plié, enfoui, loin, dans un classeur, poussiéreux, sans air.
J'avais fait l'erreur 404 400 000 fois. J'utilisais le serveur pour péter tes data. Zone, même pas peur. Pour éviter la cata. J'apprenais par cœur nom de cyclone comme Katrina, qu'on n'oublierait jamais. L'icône du patronat, les symptômes du corona, les victimes d'assassinat. Donc j'imaginais un émoticône de joie, masqué ou pas, ma langue c'était un cheval de Troie. Ouais, il bat les masques, je fais de la radio, activité par pur plaisir. Le temps qu'il faut que tu saisisses, au max on était 10, au pire on est tout un monde, à moins qu'on réussisse à se mettre hors service. Inspire, respire, expire, y'a pas de schéma. Geste arrière, mon temps spire, on était hors la loi. Devenue guerrière pour te dire, le virus c'était ma voix. Moi neuf, plus fort que le... Ouais bon, si j'effaçais tout le passé en mode espacé, je voulais remplacer ce qui m'angoissait et bouleversé. Effacer tout le passé, c'était insensé. Y'avait deux pensées, obéissez ou réfléchissez. J'étais donc une Amazone, j'avais quelques hématomes, amoureuse du microphone. J'avais un putain de royaume, épile de trois drones. Je maîtrisais les atomes, et puis du coup bah les cyclones. Pour la couche d'ozone, je mettais un carton jaune. À toutes les côtes du Rhône jusqu'à la Silicon Valley, on pouvait plus avaler. Bobard à Rome, les cahiers qu'on appelait syndrome. I use my chromosome. Ton cœur était dilaté, les directeurs je combattais. Ton odeur j'aurais piraté, les auditeurs ont le doigté. J'ai inventé un imaginaire, pendant tout ce temps tu t'éclatais. Nous, on était bouleversé et le passé surclassé. C'est sûr ça c'est, on s'enlaçait même sans se lasser. On encaissait, rêvassait et t'embrassait. C'est sûr ça c'est, on s'enlaçait même sans se lasser. Et le passé surclassé, c'est sûr ça c'est. On s'enlaçait même sans se lasser. On encaissait, rêvassait et t'embrassait. C'est sûr ça c'est, on s'enlaçait même sans se lasser. 102.2 Radio Canu. Ouh. Aïe.
Oh!
Une main tendue t'offre une mèche de cheveux. Et pourtant, je ne peux te donner ce qui nous dépasse tous deux. Ce texte, que tu perdras, car nous sommes tous perdus. Ça, je le sais. Ce à quoi je ne peux prétendre. La joie d'un pouvoir qui se lève et revient, qui n'appartient à personne, parce qu'il ne peut être approprié. Je serai ces mots avec toi comme un tissu conjonctif qui nous unit. Créature inattaquable, sans cesse en cours d'élaboration, en quête du petit miracle de se rencontrer ici. Chacun connaît la boutade du regretté Mark Fisher, qui disait qu'il est plus facile d'imaginer la fin du monde que d'imaginer la fin du capitalisme. La même chose pourrait être dite des prisons. Il est plus facile d'imaginer la fin du monde que d'imaginer un monde sans prison. Et pourtant, La prison moderne telle qu'elle existe aujourd'hui aux États-Unis est une invention plutôt récente. Malgré les débats qui faisaient rage au sein de la pénologie dans le nord du pays au début du 19e siècle entre les différents systèmes de punition et de réhabilitation, les pénitenciers étaient assez rares dans les états frontaliers à l'époque de la guerre de sécession. La Floride, qui possède maintenant l'un des systèmes carcéraux les plus imposants au pays, n'avait aucun centre pénitentiaire à la fin de la guerre de sécession et a dû créer son système pénal à partir de rien. Néanmoins, les prisons ont fini par être entièrement naturalisées. Imaginer et travailler à construire un monde sans prison, le projet des abolitionnistes, nous impose non seulement de repenser en profondeur le rôle de l'État dans la société, mais il nous faudrait aussi travailler à la transformation totale de toutes les relations sociales. Il est facile de rejeter un projet aussi noble et ambitieux, au prétexte qu'il serait irréaliste, utopique et naïf, un rêve irréalisable. Et si, au lieu de réagir à ces accusations avec des contre-arguments persuasifs démontrant que l'abolition des prisons est la seule position sensée, nous prenions stratégiquement ces accusations comme point de départ pour montrer que la prison pose en elle-même un problème pour la pensée qui ne peut être résolu qu'avec un mode de pensée qui ne capitule pas devant le réalisme du présent. Le réenchantement du monde serait-il un moyen de faire éclater le réalisme carcéral ? Ce qui suit est une série de questions à travers des conversations avec des révolutionnaires, morts ou vifs, sur la mort, les rêves, la lutte et l'expérience phénoménologique de la liberté. Il y a des moments où je veux entrer. Me suivrez-vous, là où les murs respirent et soufflent à voix basse un chant de liberté ? Dans la pénombre de sa cellule, la révolutionnaire Rosa Luxembourg se retire en elle-même. Au dehors, la Première Guerre mondiale fait rage. Nous sommes dans une tombe. Au dehors, les gens se créent des souvenirs. À l'intérieur, elle revit les siens. Alors que chacun s'est assoupi, elle couve un secret. Voyage vers là où le mystère est audible. Alors qu'un gardien surveille la nuit, elle contemple au travers des murs une prairie en fleurs qu'elle a déjà connue, ou n'a connue qu'en rêve. D'où émane cette petite chanson ? Si seulement nous savions bien écouter et brandir notre incandescence à ce mensonge qui est un verrou.
Trou de lumière aveugle, plongé dans le chaos, où ne brille pas d'étoiles. Où ne brille pas d'étoiles, plongé dans le chaos. De lumière avec.
Douze roses contre l'état policier. Quelques heures après que le corps de Mike Brown a enfin été évacué, des habitants improvisent un monument décoré d'ours en peluche et un petit hôtel mémorial à l'endroit où la police l'a laissé. Un policier d'une brigade canine laisse un chien uriner sur le monument. Plus tard, Leslie McSpadden, la mère de Brown, écrit ses initiales en pétales de rose. Une voiture de police passe en trombe, écrase l'hôtel et disperse les fleurs. Le soir suivant, Leslie McSpadden et quelques proches retournent sur le site pour le fleurir d'une douzaine de roses. À nouveau, une voiture de police fonce sur les fleurs. Le soulèvement commencera plus tard le même soir. C'était une citation de Kinanga Yamata Taylor, From Black Lives Matter to Black Liberation. Je pense aux gens qui se sont rassemblés après la mort de Mike Brown, à ce mémorial qu'ils ont improvisé sur les lieux encore tachés de sang où il avait été assassiné par l'État policier. Que vois-je dans cette rencontre ? La détermination de ces gens qui butent sur la soif de destruction des policiers, soif d'écraser la moindre apparition publique du deuil. La démonstration de force policière n'est pas nécessaire, elle ne fait que compenser. Ils veulent nous faire croire que des voitures de police écraseront toujours les pétales de rose. Ils s'imaginent que leur uniforme et le pouvoir dont ils sont investis les rendent invulnérables, pas comme les pétales de rose qui formaient les initiales MB. Ils ont tenté d'effacer le nom Mike Brown, mais il brûlera à jamais dans l'esprit des gens de Ferguson. Effacer le mémorial, effacer les fleurs, le peuple restera debout. Cette nuit-là, Un soulèvement a éclos sur le sol où les fleurs du mémorial avaient été écrasées. J'ai lu un article sur les rêves des mourants. C'était un ancien policier qui faisait constamment des cauchemars à propos des gens qu'il avait agressés. Il disait à une infirmière qu'il avait fait des conneries. Tourmenté par ses rêves, il est poignardé, abattu ou incapable de respirer. L'ultime « Je ne peux pas respirer » d'Eric Garner circule dans le monde pour hanter les policiers qui ont vidé le monde de son air. Le flic est mort, si plein de regrets. La conscience du policier peut être assurée de sa rectitude, mais son inconscience sait qu'il a fait des choses terribles. Le piétinement des fleurs du mémorial est un acte de répression. Mais ce qu'on essaie de dissimuler et ce qu'on refuse d'intégrer revient avec une vigueur plus grande. Si je devais rencontrer ces flics, je leur dirais, lorsque vous mourrez, vous ferez la rencontre des vies que vous avez enlevées et abusées. Vous, qui baladez partout votre fantasme d'invisibilité dans des habitacles en acier, vous, qui devez profaner les mémoriaux pour vous prouver votre propre force, pour cacher la faiblesse de votre imagination, une voiture en patrouille qui disperse des pétales de rose. Qu'avez-vous là tenté d'écraser ? Était-ce une façon de vous dissimuler la conscience de votre propre mort ? Et pourtant, chaque fois que vous avez tenté de détruire le mémorial, les gens sont revenus avec des objets qui gardaient la mémoire de Mike Brown. Vous avez tenté de forcer le peuple de Ferguson à oublier. Les gens sont revenus avec la volonté de porter sa mémoire dans les rues. Hier, j'ai vu un tweet qui disait « Rappelez-vous, nous avons perdu à Ferguson, nous avons perdu à Standing Rock. » À maintes reprises, le moment extatique de la révolte se heurtait à une répression plus grande encore que ce que nous avions imaginé. La fissure n'était pas un endroit où nous pouvions vivre. Nous ne pouvions pas nous accrocher aux nouvelles formes sociales qui s'inventaient dans la révolte. L'ordre établi a envoyé ses représentants pour neutraliser les manifestants. Nous avons échoué à faire de la révolution notre demeure permanente. Mais l'étincelle reste vivante, terrée. Elle attend des circonstances favorables. Le spectre d'Attica, le spectre de Wounded Knee, le spectre de Ferguson, le spectre de Harper's Ferry, le spectre d'Haïti.
Fruité ne se refuse plus et le diable en dansant se rit de nos prières. Je bois à votre lèvre un glaçon de ciguë. Puis mon corps incendié s'étiole au firmament. Comète en perdition qui de sa plainte aiguë décapite la nuit qui railleusement.
Vous êtes bien sur Radio Canu.
Au 102.2 pour Mais comment faut-il que je vous le dise ?
Hein ?
L'émission poétique toutes les deux semaines. Boum !
I make music for my people.
Je t'explique ce que je kiffe, c'est de fumer des spliffs et plus de construire des riffs qui soient compétitifs. Pouvoir faire de la musique tout en gardant mon éthique. Faire du fric sans jamais tâcher l'image de ma clique. C'est fou mais c'est comme ça, je me nourris de ça. J'ai besoin de ça, mon équilibre dépend de ça. Je suis sur le mic, mec, et puis j'aime ça. J'aime quand ça fait pas,
quand ça vient d'en bas. Et puis quand c'est pas, pour finir les chais, pour sophistiquer ses péchés.
Je préfère m'approcher de la vérité sans tricher, sans jamais changer mon fusil d'épaule. Et puis garder mon rôle, tenir la tôle, rester en pole. Position peu confortable mais c'est pas grave. J'aime le challenge, porter le maillot, frapper du saut de ceux qui dérangent est un honneur pour moi, comme pour tous mes complices, mes compères, mes compas. Fatigué de cette farce, on veut plus subir et continuer à jouer les sbires. Sache que ce à quoi j'aspire, c'est que les miens respirent. Mes kiffs c'est de chiller, rester tranquille, mais ça n'est bien me laisser aller à déballer. Des conneries parler juste pour parler. Refaire le monde avec notre vision décalée. On est des fous, bloqués dans des cages d'escalier, pris en otage, je parle nombre élevé de paliers. Et à la longue, mec, je t'assure, tout ça, ça pèse. 96, je vois toujours des braises allumées dans les yeux fatigués des gosses du quartier. Passe, passe le mic, je développe mes idées contaminées. C'est vrai, cheminé, déterminé à ne jamais vraiment lâcher la.
Qu'est-ce que tu peux faire?
Je suis pas là pour prendre des coups, bien même pour me taire. Si le FN brandit sa flamme, je suis là pour l'éteindre, c'est clair. Pas d'éclair, de gêné, juste un lyrique qui jaillit de mon esprit, dédicacé à mon poissé.
École bon!
Oh! Ah!
Seule excuse au fait de prendre de l'âge. Si je sens pas les miens autour de moi, putain, c'est naufrage assuré. C'est vrai, je me sens rassuré. Qu'en présence de ceux que j'aime, je veux m'assurer que tout ce que je balance soit approuvé. Même si j'ai rien à prouver, je veux que tous mes potes puissent s'y retrouver. Je veux pouvoir les garder près, moi les regarder 12 mois par an. L'ont fait mes parents pour moi, parce qu'après c'est trop tard. Faut pas comprendre qu'on les aimait une fois qu'ils sont tibas. Ou bien c'est que t'as envie de pleurer. Plutôt que tu sais pas, dans ce cas je peux rien pour toi. J'ai pas la clé du bonheur, j'ai même jamais été à la hauteur. Pour ce genre de truc, mais aujourd'hui j'ai peur. Car l'horloge a tourné, j'ai tourné, j'ai tourné, j'ai tourné.
Découvrez-vous sa mère, vous allez vous en faire.
en septembre 1971, les prisonniers du centre correctionnel d'Attica, dans l'état de New York, se sont soulevés et ont occupé des lieux pour libérer un petit espace, une zone de liberté temporaire d'où ils pouvaient observer les étoiles. Malgré l'inquiétude, il y a eu des instants frivoles et même pour certains, un sentiment de joie inattendu, à ce moment où des hommes qui n'avaient pas respiré l'air frais de la nuit depuis des années ont pu savourer cette étrange liberté. Dans la nuit, on pouvait entendre de la musique. Les frères jouaient de la batterie, de la guitare, du saxophone, du vibraphone et de la flûte. La plupart de ces hommes n'avaient jamais senti une telle légèreté depuis qu'ils avaient pénétré dans cette prison à sécurité maximale. Cette nuit-là a suscité une profonde émotion chez tous les prisonniers. Richard Clark observait avec stupéfaction ces hommes qui se prenaient dans leurs bras et il a vu un homme fondre en larmes parce qu'il n'avait pas eu le droit de se rapprocher de quelqu'un depuis tellement longtemps. Carlos Roche voyait les larmes d'euphorie qui parcouraient le visage flétri de son ami Howell, un vieil homme qui était enfermé depuis des années. « Tu sais, » dit Howell, émerveillé, « je n'avais pas vu les étoiles depuis 22 ans. » Clark décrira plus tard cette première nuit de rébellion en disant que, même s'il y avait beaucoup d'appréhension sur ce qui pourrait arriver ensuite, les hommes de l'aile D se sentaient formidables, car peu importe ce qui se passerait plus tard, ils ne pourraient pas nous enlever cette nuit. Ida Ann Thompson, Blood in the Water, The Attica Prison Uprising of 1971 and its Legacy. Dans les interstices du pénitencier, quelque chose s'est épanoui, un champ de fleurs sauvages sur la toile de la nuit. Le sang allait couler, la joie et la terreur s'y mêlaient, infusant l'air d'un sens puissant, de ravissement et d'incertitude. Quelle fréquence exaltée ont-ils découvert cette nuit-là, pour la perdre ensuite, quand le gouverneur Nelson Rockefeller a ordonné à la police de mettre fin à la mutinerie. Le sang allait couler, le nouveau monde n'est pas venu. Cela a dû être si terrible pour W.E.B. Dubois de réaliser qu'il avait pris la nuit tombante pour l'aube, que c'était la pénombre qui suivrait et non l'éclat d'un nouveau jour, le crépuscule des efforts de son peuple. Le rêve d'émancipation s'est effondré en un amas de décombres sanglants. Le sang allait couler. Le son des tambours ne durerait pas. Les prisonniers seraient punis d'avoir osé regarder les étoiles. Ceux qui ont construit cet enfer se demanderont-ils un jour pourquoi tout cela? La subordination de toute vie à ces systèmes qui nous emmurent? Pourquoi recouvrir le ciel? Le désert d'Atacama, au Chili, est si sec que les cadavres y sont préservés pour la postérité et que des traces d'anciennes communautés humaines y demeurent intactes, comme si elles avaient été immortalisées dans l'ambre. En raison de l'altitude et de son absence d'humidité, le ciel du désert d'Atacama est d'une clarté exceptionnelle. Il donne une vue imprenable sur les étoiles. Au fil du temps, les scientifiques et les astronomes ont envahi cette région pour y construire des télescopes puissants afin d'observer le cosmos. Plusieurs années après la tragédie d'Attica, sur un autre continent, des prisonniers politiques déportés dans le désert d'Atacama par Augusto Pinochet, le dictateur soutenu par les États-Unis, observaient les mêmes étoiles depuis les confins d'un camp de prisonniers. Patricio Guzman, réalisateur de documentaires. Comment te sentais-tu lorsque tu observais les étoiles en prison? Luis Enriquez, survivant du camp de concentration de Chacabuco. Nous avions tous un sentiment de grande liberté. Observant le ciel et les étoiles, émerveillés par les constellations, nous nous sentions complètement libres. Des militaires ont interdit les cours d'astronomie. Ils étaient persuadés que les prisonniers pouvaient s'évader, guidés par les constellations. Guzman. La noblesse de Luis repose dans sa mémoire. Il n'a pas pu s'évader, mais en communiquant avec les étoiles, il a réussi à garder sa liberté intérieure. Je reviens aux étoiles, à la question de savoir pourquoi on se sent libre lorsqu'on observe des étoiles. Est-ce parce que lorsque nous communions avec les étoiles, nous faisons partie d'un tout, le tout de la vie, nous nous sentons comme de la matière recyclée, comme de l'énergie cristallisée sous une forme temporaire, une forme qui ne tiendra pas, qui finira un jour par se défaire. Que sentaient-ils lorsqu'ils observaient le ciel de la nuit ? Son immensité produisait-elle un sentiment de liberté ? Se rappelaient-ils qu'il y a un monde au-delà des murs de cette prison ? Étaient-ils transportés dans leur enfance, au mystère, à la première fois qu'ils avaient contemplé leur place au sein du tout ? Dans son autobiographie, Dusk of Dawn, Dubois parlait de la race comme d'une prison, qu'on ne saurait abolir qu'avec une révolution aussi bien matérielle que spirituelle. Anticipant le propos de mon livre, il suggérait que le problème le plus immédiat pour son peuple était de garantir son existence, un travail et un revenu, de la nourriture et un toit, une indépendance spirituelle et un contrôle démocratique du processus industriel. Mais qu'il ne faudrait pas concentrer tous ses efforts sur le bien-être économique, que son peuple doit vivre, manger et lutter, tout en entretenant un commerce imperturbable avec les étoiles.
Chuchotais-je à l'oreille de ma fille endormie en son tout petit lit. Moi qui suis le gardien qui te berce et te veille, je voudrais bien savoir où ton âme sommeille. Car je vois, aux lueurs du matin qui pâlit, qu'irrémédiablement, chaque jour t'embellit.
Voilà, et c'est déjà la fin de l'émission. Vous avez pu entendre ce soir des poèmes de Matteo des Bruvisseaux, le poème Corps à corps, Méduse polyéthylène, Tentation, Trop de lumière aveugle, En vos abysses, La dernière carapace et Lueur du matin, avec les voix de Sandra Lou, Abby Alano et Léo Kenogami. Voilà, c'est issu du recueil Invivarium, disponible sur bookelis.com. Vous avez pu entendre aussi l'erreur 404 que j'ai fait sur une instru de Chaotix, le morceau Circo de Amor de La Crespa, Fit Calle Callerera, Melix, MC Saya, Yela Quim et Awa Doni. Vous avez pu entendre aussi NTM, That's My People. Et voilà. Et donc, Adrien...
Et de mon côté, j'ai lu des extraits de Capitalisme carcéral de Jackie Wang, qui est paru aux éditions Divergence l'année dernière. Voilà, ça me semblait important en soutien aux révoltes en ce moment... aux États-Unis. Donc j'ai lu le chapitre 5 qui s'appelle Le flic cybernétique, Robocop et la police du futur, et des petits extraits du chapitre 7 qui s'appelle L'imaginaire abolitionniste, une conversation, où Jackie Wang se met en conversation avec différents auteurs, autrices et email des réflexions personnelles sous forme poétique ou. ou sous la forme de l'essai. D'ailleurs, j'en profite pour signaler que en réaction et en soutien aux révoltés états-uniens et états-uniennes, les éditions Divergence ont mis à disposition le PDF du chapitre 6, je crois que c'était hier, qui s'appelle « Contre l'innocence, race, genre et politique du SAIF ». Voilà, donc je pense que c'est d'actualité et que c'est une excellente lecture. Voilà.
Super. Eh bien, on se retrouve dans 2 semaines et on vous laisse avec Europe is Lost de Kate Tempest. Vous êtes bien sur le 102.2 sur Radio Canu. C'est la plus rebelle des radios et puis il n'y a qu'un truc à dire, justice et vérité.
In the basement flat by the garages where the people dump their mattresses, Esther's in her kitchen making sandwiches. The slats on her blinds are all wonky and skewed. You can see her from the street before she moves out of view to kick her boots off tired feet. She wipes her forehead with her wrist. She's just back from a double shift. Esther's a carer, doing nights. Behind her on the kitchen wall is a black and white picture of swallows in flight. Her eyes are sore, her muscles ache, she cracks a beer and swigs it. She holds it to her thirsty lips and necks it till it's finished. It's 4:18 a.m. again. Her brain is full from all she's done that day. She knows that she won't sleep a wink before the sun is on its way. She's worried about the world tonight. She's worried all the time. She don't know how she's supposed to put it from her mind. Lost. America lost. London lost. Still we are clamoring victory. All that is meaningless rules. We have learnt nothing from history. The people are dead in their lifetimes, dazed in the shine of the streets. But look how the traffic's still moving. System's too slick to stop working. Business is good and there's bands every night in the pubs. And there's 2-for-1 drinks in the clubs. And we scrubbed up well, washed off the work and the stress. And now all we want some excess. Better yet, a night to remember that we'll soon forget. All of the blood that was bled for these cities to grow, all of the bodies that fell, the roots that were dug from the earth so these games could be played. I see it tonight in the stains on my hands. The buildings are screaming. I can't ask for help though, nobody knows me. Hostile, worried, lonely, we move in our packs and these are the rights we were born to. Working and working so we can be all that we want and dancing the drudgery off. But even the drugs have got boring. Well, sex is still good when you get it. To sleep, to dream, to keep the dream in reach. To each a dream, don't weep, don't scream. Just keep it in, keep sleeping in. What am I gonna do to wake up? I feel the cost of it pushing my body like I push my hands into pockets. And softly I walk and I see it, this is all we deserve. The wrongs of our past have resurfaced despite all we did to vanquish the traces. My very language is tainted with all that we stole. To replace it with this I am quiet, feeling the onset of riot. Riots are tiny though, systems are huge. Traffic keeps moving, proving there's nothing to do. Cause it's big business, baby, and its smile is hideous. Top down violence and structural viciousness. Your kids are don't stop him. Medical said it is, but don't worry about that, man. Worry about terrorists. The water level's rising. The water level's rising. The animals, the elephants, the polar bears are dying. Stop crying, start buying. But what about the oil spill? Shh. No one likes a party pooping spoil sport. Massacres, massacres, massacres. New shoes. Ghetto-wise children murdered in broad daylight by those employed to protect them. Live porn stream to your preteen's bedroom. Glass ceiling, no headroom. Half a generation live beneath the red light. Oh, but it's happy hour now. High Street, Friday night at last, lads, my treat. All went fine till that kid got glassed in the last bar. Place went nuts, you can ask, I knew it was madness. Roran read pure clavier and about them immigrants. I can't stand them, mostly I mind my own business. They're only coming over here to get rich, it's a sickness. England, England, patriotism. And you wonder why kids want to die for religion. It goes girls work all your life for a pittance. Maybe you'll make it to manager, pray for a raise, cross the bays, days off on your beach, babe. Calendar, the anarchists are desperate for something to smash. Scandalous pictures of fashionable rappers in glamorous magazines. Who's dating who? Political cash in an envelope. Caught sniffing lines off of prostitutes, prosthetic tits. Now it's back to the House of Lords with slap wrists. They have got kids and fuck their heads of dead pigs. But him in the hoodie with a couple of splits, jail him, he's the criminal. Jail him, he's the criminal. It's the board of it all generation, the product of product placement and manipulation. Shoot 'em up brutal, duty of care, come on new shoes, beautiful hair. Bullshit, saccharine ballads and selfies and selfies and selfies. And here's me, outside the palace of me, construct yourself in psychosis. Meanwhile the people were dead in their droves and no, nobody noticed. Well some of them noticed, you could tell by the emoji they posted.
Sleep like a gloved hand covers our eyes. The lights are so nice and bright and let's dream. But some of us are stuck like stones in a slipstream. What am I gonna do to wake up?
We are lost, we are lost, we are lost, and still nothing will stop. Nothing pauses. We have ambitions and friendships and courtships to think of, divorces to drink of, the thought of the money, the oil. The planet is shaken and spoiled, and life is a plaything, a garment to soil. Toil, the toil. I can't see an ending at all, only the end. How is this something to cherish when the tribesmen are dead in their deserts? To make room for alien structures, develop, develop, and kill what you find. If it threatens you, no trace of love. In the hunt for the bigger buck,